Quand je me suis posé cette question des 5 décisions où j'étais pas centrée, ben je dois vous avouer que c'était un peu difficile. C'était un peu difficile de trouver, de poser la lumière sur ces actions que j'ai menées et d'en trouver 5 où réellement j'étais pas centrée. Simplement parce que je crois que dans mon quotidien, j'essaye au maximum d'être centrée, mais c'est un truc que j'apprends avec le temps. C'est quelque chose qui se passe sur la durée. Et du coup, j'ai parfois été remontée un peu loin dans mon expérience, dans les années que j'ai vécues, pour retrouver des décisions que j'ai prises et où, franchement, on va se le dire en toute honnêteté, j'étais complètement à côté de mes pompes. Je suis Safia Ayad et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode des podcasts d'Inner Life. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du centre et on va parler de ces décisions que j'ai prises et où vraiment, j'étais pas alignée, j'étais pas dans mon centre, j'étais à côté de mes pompes. Je pense que c'est exactement comme ça qu'on peut le définir. Je vous souhaite une belle écoute. En parlant du centre, vous savez que le 15 novembre, donc là, tout de suite, ça arrive, on se retrouve pour un MISLA, un atelier en digital où on va parler de ça. On va aller explorer ce que ça veut dire le centre pour chacun et chacune d'entre vous à travers la méditation, à travers la transmission, l'information que je vais vous partager, mais aussi à travers le journaling, à travers le mouvement. On va aller à la rencontre de ce que ça veut dire pour vous et comment l'embrasser, comment être vraiment dans votre centre, comment le définir et comment le garder sur le long terme. Alors, si vous n'avez pas encore réservé votre place, il est encore temps. Je vous invite à le faire. Vous avez toutes les informations sur mon site web et aussi en barre d'infos. Mais sans plus attendre, les 5 décisions que j'ai prises sans être centrée, aka en étant complètement à côté de mes pompes. La première décision, c'est celle de partir vivre à Paris alors que j'étais enceinte de 7 mois. Vous allez vous dire, non mais Safia, sur le papier, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Oui, sur le papier, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Quand on est parti vivre à Paris, j'étais donc enceinte de 7 mois. Ça faisait plusieurs mois qu'on méditait le projet, qu'on le mettait en place, etc. Et c'était cohérent dans le sens où on travaillait qu'avec Paris. Et j'allais tout le temps à Paris. Je prenais l'avion 2 à 3 fois dans le mois pour me rendre à Paris et faire des shootings, faire des rendez-vous, faire des événements, tout un tas de choses que je faisais à l'époque. Et aller à Paris, ça faisait sens de pouvoir être plus proche de notre cœur d'activité, de pouvoir faciliter les transports, ne pas être loin de notre fils ou laisser Guillaume seul avec notre enfant trop souvent. Et puis même, je me disais, j'ai pas envie, 3 fois dans le mois, de devoir être loin d'eux. Juste non. Du coup, c'était cohérent. C'était cohérent, mais c'était quand même pas centré. Je vous explique. Il y a des moments dans la vie qui sont des moments charnières, des moments où il y a un avant-après, des moments où tu peux faire tous les plans que tu veux, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Tu ne sauras pas ce que ça va donner. Tu ne sauras pas dans quel état d'esprit tu vas être. Tu ne sauras pas quels vont être qu'est-ce que tu vas récolter, en fait, des graines que tu as semées. Et ces grands moments-là, c'est par exemple un déménagement, par exemple un nouveau travail, c'est par exemple l'arrivée d'un enfant. Et je pense que l'arrivée d'un enfant est particulièrement le premier. Après, ceux qui ont plusieurs enfants, vous pourrez me dire si je me trompe, mais je crois que particulièrement le premier, c'est genre la plus grosse claque que la vie nous met. Mais c'est une claque que l'on savoure quand même. Et parce que ce sont ces moments charnières-là, ils ont besoin d'être vécus avec une attention énorme. Ils ont besoin d'être vécus avec la plus grande présence pour pouvoir justement rester en notre centre. On ne peut pas être centré en vivant plusieurs moments charnières en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être centré en accueillant son premier enfant, en déménageant en région parisienne, alors que bien qu'on ait retrouvé des amis là-bas et la vie a bien fait les choses, on n'avait pas de famille, on n'avait pas d'attache historique non plus dans notre vie là-bas. Et on lançait aussi notre marque de maillot de bain éco-responsable, zéro déchet, fabriqué en Catalogne, etc. Donc en fait, on est en train de réunir 3 moments clés de notre vie au même instant. Et ça, les gars, ça ne peut pas être centré. Je ne dis pas que c'est une erreur. Ne pas être centré, ça ne veut pas dire faire une erreur. Je crois d'ailleurs pas en la notion d'erreur dans la vie. Vous savez bien que, et on l'a assez répété, et tout le monde le dit, et vous le savez, vous le comprenez, c'est des expériences, c'est des occasions d'apprendre. Il y a des choses que l'on peut regretter. Une chose que je regrette dans ma vie, je vais vous en parler juste après. Ce déménagement-là, qui a été fort en mon émotion, qui a été fait sans réellement comprendre la direction dans laquelle on allait, qui a été fait au moment où il y avait d'autres moments charnières, d'autres événements majeurs dans notre vie, je ne le regrette pas. Mais par contre, j'ai compris que quand j'avais ce fameux moment charnière ou ce fameux événement dans ma vie, que ce soit un nouvel emploi, un déménagement ou un enfant, il y a un moment où chaque chose doit être vécue pleinement pour pouvoir la vivre intensément, présentement, avec la plus grande des consciences. Donc l'enseignement, c'est celui-là. C'est que chaque chose doit être vécue indépendamment des autres dans la mesure du possible. Sinon, c'est impossible d'être complètement centré et on en paye d'une certaine manière les pots cassés, mais les pots cassés, c'est les enseignements aussi. La deuxième chose que j'avais partagée avec vous sur Instagram, parce que tout ça, vous le retrouvez de manière très concise sur un post Instagram, c'était celle d'hurler sur ma mère. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu beaucoup ma maman lorsque je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube ou alors même quand j'avais Snapchat, etc. Ma maman, elle apparaissait beaucoup quand j'habitais encore proche de chez elle ou chez elle d'ailleurs. Et avec le temps, on la voit moins parce que moi-même, je la vois moins et parce qu'aussi, il y a eu une période où notre relation est devenue beaucoup moins organique et fluide qu'elle ne l'avait été. Et ça, à partir du moment où je suis devenue maman. Le fait de devenir maman, comme je viens de le dire, c'est quelque chose de transformateur dans le sens le plus noble du terme. Ça nous transforme sur tous les plans. Et la relation avec ma maman s'est aussi vue transformée parce que je n'étais plus juste, entre guillemets, la fille d'eux. J'étais aussi la maman d'eux. Et là, la relation est tout autre. D'ailleurs, j'ai un podcast à ce sujet-là que vous pouvez retrouver sur la plateforme de podcast ou sur YouTube qui parle de cette relation maman et fille. Je suis la fille, elle est la maman. Et c'était une question que l'une d'entre vous m'avait posée, même si je crois que celle qui me l'avait posée n'était pas encore maman elle-même. Mais déjà, comment je fais pour être une femme, une fille d'eux, etc., etc., et une maman par extension. Le fait d'hurler sur ma maman plusieurs fois ces 5 dernières années est là une preuve, encore une fois, ou des preuves de non-centrage. Parce que quand j'hurle sur ma maman, je ne suis pas en train de lui exprimer qui je suis en train de lui exprimer une peine, je suis en train de lui exprimer une colère, je suis en train de lui exprimer une déception, je suis en train de lui exprimer une tristesse, quelque chose de très profond qui vient de mon enfant intérieur très souvent et qui s'exprime là parce que la personne en qui j'ai le plus confiance et la personne qui représente mon monde depuis que je suis atterrie dans cette vie, c'est elle. Et du coup, je lui déverse tout ça. Mais parce que je lui déverse tout ça, naturellement, je ne suis pas en mon centre. Parce que quand je suis en mon centre, j'arrive à faire le distinguo entre mes émotions et ce que réellement je veux partager avec le monde. Et quand je me laisse emporter par mon flot émotionnel, c'est que j'arrive plus à être en mon centre. J'arrive plus à rester vraiment droite dans mon alignement, dans ma vérité, dans ma justesse. Et le fait de se laisser porter par les émotions, et c'est un truc qui peut nous arriver à tous, c'est un appel au secours d'une certaine manière, mais cet appel au secours, parfois on a la sensation qu'on va le chercher ailleurs, et moi pendant longtemps, ces 5 dernières années, j'ai cherché le secours auprès de ma maman en disant « mais sois une maman, sois une maman, sois une maman, moi-même je suis une maman, j'ai besoin que tu sois une maman ». Et vraiment ce soutien-là, j'en avais besoin, sois une grand-mère, une maman. Et chaque histoire s'exprime d'une manière différente, mais en fait, le secours, je ne devais pas le trouver en elle, je devais le trouver en moi. Et c'est que depuis que réellement j'ai intégré cette idée, parce que c'était une idée que j'avais dans la tête, je le comprenais au niveau cognitif, mais j'avais du mal à le faire descendre dans le corps et à vraiment faire corps justement avec cette idée-là et sentir que c'est vrai à l'intérieur de moi. Et bien à partir du moment où j'ai senti ça, avec le temps et la patience et l'exploration et le fait d'observer, de regarder, eh bien, ça s'apaise. Ça s'apaise à l'intérieur de moi, ça s'apaise entre nous. J'apprends à accepter ce que je ne voulais pas accepter. Et ce n'est pas une acceptation dans le sens « je lâche l'affaire » ou « rendirse » en dit en espagnol. C'est le mot qui me vient, mais il y a vraiment cette idée de lâcher prise, mais au service de la relation. Pas lâcher prise, j'oublie que j'aurais voulu que ma mère soit comme ci, comme ça, qu'elle soit une grand-mère comme ci, comme ça, qu'elle soit présente comme ci, comme ça. Non, j'oublie pas. C'est juste que je fais la paix avec mon besoin viscéral de ça parce que je viens soigner moi-même ce manque-là, je viens apaiser mon enfant intérieur, parce que rappelez-vous qu'ici, on parle vraiment de l'enfant intérieur qui hurle auprès de sa maman, mais de sa maman, la maman biologique. Mais moi, je prends mon rôle de maman de cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de moi, donc je suis à la fois la maman et l'enfant, et je suis venue apaiser ça. Je suis venue, ok, on va faire le travail ensemble, on va venir apaiser ça. Donc l'enseignement, il est vraiment là, il est de se dire que quand je me laisse embarquer dans mes émotions, c'est que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas centrage. Et comment je retrouve ce centrage-là? C'est en observant, en entrant à l'intérieur, en regardant pourquoi je me suis laissée emporter, qu'est-ce que je suis venue chercher? Parce que quand il y a une émotion qui déborde, c'est qu'il y a quelque chose à venir combler. Qu'est-ce que je suis venue chercher pour combler ça? Eh bien, comment je peux me l'offrir? Comment je peux le shifter un peu aussi dans ma manière de voir la vie, de voir les choses, pour soigner ça, pour guérir ça, pour apaiser ça? Ces émotions qui débordent, c'est mes blessures qui s'expriment. Et les blessures, quelles qu'elles soient, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec nos enfants, avec nos partenaires, avec nos amis, avec le boulanger, avec qui vous voulez, ça peut s'exprimer avec qui on veut parce que c'est une histoire de miroir. Les blessures ne se soignent que par nous-mêmes. On peut être accompagné d'un thérapeute, on peut être accompagné de notre famille, de nos amis, de nos compagnons, de nos compagnes, bien sûr. Mais tant qu'on n'a pas posé la conscience et fait le travail personnellement, on peut avoir le meilleur environnement possible, ça ne marchera pas. Donc, l'enseignement, il est là. Allez observer nos blessures et avancer pour les guérir soi-même. Ah, celle-là, elle est marrante. Cette décision, elle est drôle. On est en 2018, Festival de Cannes 2018, donc, avril-mai 2018. Je suis à... calculons environ 6 mois de grossesse, 5-6 mois de grossesse, donc ça se voit, voilà. Mais je suis dans la période où ça se passe, bon, ça s'est toujours bien passé ma grossesse, mais je veux dire, je peux encore bien marcher, tout va bien en fait, je suis habituée à avoir un gros ventre, tout va bien, et puis encore, il n'est pas énorme, donc tout se passe bien. Et puis, donc je suis invitée au Festival de Cannes par Dyson, avec qui on travaillait. Et c'était la première fois qu'on allait aller au Festival de Cannes avec Guillaume. Donc, il y avait cette espèce de pression sociale de dire « Ok, je vais au Festival de Cannes, les gars. » C'est-à-dire qu'il va falloir que je sorte l'artillerie lourde pour être aussi belle que les autres et sur la montée des marches et pouvoir faire du contenu où vraiment on sent que c'est spécial parce que c'est le Festival de Cannes. Spécial, le Festival de Cannes. Et du coup, je me mets cette pression-là. Et je cherche une fameuse robe pour le fameux soir où on va monter les fameuses marches. Même si ça n'a, qu'on se le dise, aucune valeur, aucun sens. Je ne suis ni actrice, ni quoi que ce soit du monde du cinéma. Donc, pourquoi j'irais monter les... Mais non, ça c'est autre chose. N'empêche qu'il y avait cette illusion. Il y a quand même l'ego qui est nourri, qui se dit « Waouh, c'est excitant, moi aussi je vais pouvoir faire ça ». Et je cherche cette robe, mais je suis à 5-6 mois de grossesse. Donc, il y a un moment, il faut que je trouve un compromis entre être Eva Longoria enceinte, mais sans forcément avoir une robe de créateur parce que je ne suis pas Eva Longoria. Et donc, je commence à chercher et on tombe sur un pop-up qui avait ouvert ici à Barcelone d'une créatrice. Et moi, je me dis... magnifique, créatrice de Barcelone, je vais l'emmener à Cannes, ça va être trop bien, j'adore l'histoire que ça raconte, effectivement sur le papier c'est top. Je me dis c'est ici que je vais trouver ma robe. Sauf que cette créatrice, elle crée des choses un peu importables, qu'on se le dise, un peu importables. Mais moi j'étais bornée, j'étais en mode c'est là que je vais trouver ma robe, c'est l'histoire que je veux raconter, je vais à Cannes avec quelque chose d'une créatrice barcelonaise et basta. Donc j'essaye des trucs, dont cette fameuse robe dorée. Sur le papier, une robe dorée, c'est pas non plus dramatique, il y en a des très belles d'ailleurs. Mais là, je rappelle encore que j'ai un ventre de femme enceinte et c'est une robe extrêmement moulante. Donc, ventre de femme enceinte, poitrine de femme enceinte aussi. Hein, voilà. Extrêmement moulante, avec un grand décolleté, un dos nu et surtout, un tissu désagréable à souhait, un peu plastique, et aucune finition sur les ourlets du bas. Enfin, vraiment, c'était ni fait ni à faire. Sauf que moi, je suis partie bille en tête. Je veux être vue, je veux être belle, je veux que mon ventre soit mis en valeur, je veux aller au Festival de Cannes, pa. Et Guillaume, qui n'osait pas vraiment mettre son droit de veto, depuis on en a reparlé, je lui ai dit, la prochaine fois qu'un truc comme ça m'arrive, tu me mets ton droit de veto. Tu me dis, no way, moi je le fais pour toi, pourquoi tu ne le fais pas pour moi? Mais les hommes ont parfois ce tact et cette délicatesse. Et moi, je lui ai dit non. Dans ces cas-là, tu n'as pas de tact, pas de délicatesse, dis-moi non. Donc, je finis par acheter cette robe que je n'ai jamais mise. Et il s'avère que finalement, il y a eu une grève des contrôleurs aériens. Et donc, je n'ai pas pu voyager jusqu'à Nice et donc ensuite jusqu'à Cannes. Et je ne pouvais pas y aller en voiture parce que j'étais trop enceinte pour faire trop de kilomètres. Et je ne sais pas, le train, il n'y en avait pas. Enfin, toujours ces histoires de train qui sont compliquées. Bref, en gros, annulation du Festival de Cannes pour Safia et Guillaume et cette fameuse robe dorée. Mais quel est l'enseignement ici et pourquoi surtout j'étais pas centrée? J'étais pas centrée parce que j'avais qu'une idée, c'était d'être Eva Longoria sur le tapis, voilà, à la montée des marches, sachant que de toute façon je suis ni Eva Longoria, ni actrice, ni quoi que ce soit. Donc c'était complètement illusoire et c'était un rêve d'enfant. Juste, c'était encore une fois la ninita à l'intérieur qui avait envie de jouer à la princesse. Donc ça, c'est pas centré pour une femme de, à l'époque, 28 ans. Mais c'est beau en même temps, c'est très beau. Moi, j'aime me rappeler de moi à ce moment-là et me dire « Punaise, t'étais tellement à côté de tes pompes, meuf, mais c'est beau parce que tu l'as vécu à fond, ton truc. » Il n'y avait pas que cette jeune fille, cette ninita, cette petite fille qui avait envie de jouer à la princesse. Il y avait aussi ce truc de « c'est Cannes, c'est Cannes ». Je suis à Cannes avec Dyson, avec des meufs qui vont être trop belles. Et moi, je suis enceinte et j'ai envie aussi d'être trop belle. J'ai cette pression sociale. Et pour la pression sociale, j'adopte une robe, une tenue qui n'est pas du tout ce que j'aurais mis d'habitude. Jamais de la vie, j'aurais mis ça si j'avais vraiment été connectée à mon centre. J'aurais mis quelque chose de beaucoup plus bohème, de beaucoup plus à mon image. Mais là, j'avais cette pression sociale de vouloir rentrer dans un moule qui est celui de Cannes. Mais en tout cas, la vie est toujours bien faite. L'enseignement, c'est que vouloir absolument fitter dans un moule qui n'est pas le nôtre, c'est se mettre dans des chaussures qui ne sont pas à notre taille. Et donc, on ne peut pas marcher, on ne peut pas être bien, on ne peut pas faire des kilomètres, on ne peut pas savourer l'instant. Donc aujourd'hui, à chaque fois que j'ai une décision comme ça de... Je vais dans un environnement qui n'est pas réellement un environnement qui me correspond. Je réfléchis beaucoup à comment y apporter ma vérité, comment y apporter ce qui est juste pour moi, comment rester dans mon centre, comment rester honnête avec moi-même. Parce que ce n'est pas parce que cet environnement n'est pas mon environnement de tous les jours ou ne m'est pas coutumier que je ne dois pas y aller. Mais il y a vraiment ce travail-là de rester en son centre et de rester connecté à ce qui est juste pour soi. Tout à l'heure, je vous parlais du seul regret que j'ai dans ma vie. Et c'est ce quatrième point, ou cette quatrième décision que j'ai prise sans être centrée, et qui est celle de tromper mon compagnon. Alors, je le dis tout de suite, pas de suspense, c'est pas Guillaume. Mais peu importe, j'ai quand même trompé quelqu'un. Et je l'ai fait en étant complètement à côté de mes pompes, parce qu'on ne peut pas le faire autrement qu'en étant à côté de ses pompes. Juste pour vous remettre dans le contexte, j'avais 19 ans et je suis partie vivre en Colombie. Et à l'époque, j'habitais avec mon copain. À l'époque, on disait copain, je ne disais pas compagnon. J'habitais avec mon copain en France, à Grenoble, et je pars faire un semestre en Colombie. Et ma relation avec cet homme-là était une relation qui n'était pas... Je n'étais pas très heureuse, on n'était pas très en phase, on n'avait pas grand-chose en commun. C'était pas du tout la magie, c'était, voilà, mais il y avait une espèce d'attachement, comme il peut y en avoir dans plein de relations, mais ce n'était pas nécessairement un amour inconditionnel ou un amour passionnel. Et au bout de quelques semaines, très rapidement, je rencontre un Colombien qui, lui, par contre, est très présent, qui, lui, est très attentif, qui, lui, s'intéresse beaucoup à moi, qui, lui, est curieux de plein de choses. J'avais la sensation que c'était tout l'inverse de ce que j'avais à la maison. Et puis, il était très beau aussi. Et voilà, chemin faisant, je me suis laissée embarquer, je me suis embarquée, je ne me suis pas laissée, je me suis embarquée dans une relation adultère avec cet homme-là. Et jusque-là, bon, on peut se dire, ok, elle a 19 ans, elle est à l'autre bout du monde, elle est en train de vivre sa meilleure vie, à faire la fête tous les week-ends, à voyager dans toute la Colombie, à aller étudier quand elle a envie et de ne pas y aller quand elle n'a pas envie, à prendre l'espagnol et juste s'imprégner d'une culture extraordinaire qui est celle de la Colombie. Sauf que quelques mois plus tard, mon copain français est venu me voir à Bogota, en Colombie, là où j'habitais. Et pendant les quelques jours où il était là, j'ai continué à voir le Colombien. Pour moi, c'était insoutenable d'être avec, si on doit mettre des nationalités, d'être avec le français alors que j'avais envie d'être avec le Colombien et de me mentir en permanence et de mentir aux Français en permanence. Le Colombien était au courant de tout, évidemment. Mais je mentais à mon officiel, le français, et je me mentais à moi d'une force qui était incommensurable, qui était... Je ne me suis jamais menti autant et c'est pour ça que c'est mon seul regret dans la vie. Parce que quand on en est à ce point à cacher des choses à celui qui est censé partager notre vie ou à une personne tellement importante dans notre vie, c'est qu'au fond de soi, on est aussi en train de se mentir fortement. On est aussi en train de se voiler la face. On est aussi en train de s'empêcher d'être authentique et sincère avec soi-même. Parce que je crois que c'est terrible et c'est un manque d'honneur et d'honnêteté que de mentir à l'autre. Mais comme le travail se fait toujours de l'intérieur, quand je mens ou quand je suis malhonnête avec l'autre, c'est d'abord que je me mens et que je suis malhonnête avec moi-même. Donc l'enseignement de cette décision complètement décentrée et complètement malhonnête et injuste et bueno, regrettable, là je pose le mot, c'est que quand je me mens, je ne peux pas être bien avec l'autre. Et il y a un signal d'alarme, c'est que si je me vois mentir à quelqu'un, c'est que déjà je me suis menti à moi-même. Et la notion de mensonge, les amis que j'ai depuis très longtemps savent que ça a toujours été très dur pour moi de gérer le mensonge. Et je déteste ça, j'ai toujours besoin que les choses elles soient exactement dites comme elles se sont passées, au détail près, sinon j'ai la sensation de mentir. Mais là, j'ai embrassé le mensonge parce que j'étais trop bien en fait avec cette autre personne et que j'avais pas envie d'affronter la réalité qui était celle de dire « c'est terminé ma vie telle qu'elle est en France ». Maintenant, j'ai envie d'aller vers autre chose. J'avais trop peur de rompre la relation et d'assumer ce que je voulais. J'avais trop peur d'être honnête avec moi-même et donc d'être honnête avec le français. Ce que j'ai finalement dû faire, évidemment, parce qu'à un moment, quand dans quelques semaines, je rentre en France, je ne peux pas rentrer et retourner vivre avec lui. Il y a un moment où j'ai été face au mur et j'étais obligée d'être honnête avec moi-même. Et le deuxième enseignement, au-delà du fait que mentir à quelqu'un, c'est se mentir à soi, rappelez-vous de ça, le deuxième enseignement de cet événement majeur dans ma vie, c'est que de dire la vérité, de se dire la vérité et donc de la partager à l'autre, c'est un soulagement. Mais c'est un soulagement énorme. Parce qu'évidemment, je me rappelle encore le jour où j'étais au téléphone avec mon copain français. Et je lui disais, j'ai pas envie de rentrer dans un mois. Et c'est là que ça a déclenché la conversation. Et c'est là que je lui ai dit que je pense que ça serait mieux qu'on arrête la relation. J'ai pleuré moi aussi parce qu'il y a eu une espèce de waouh, comme un soulagement, mais une peur d'avoir honoré ma vérité. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais après ce moment-là de déstabilisation, il y avait le truc de punaise, j'ai réussi à être honnête avec moi-même et à honorer cette personne, à être honnête avec lui. Et ça n'a pas de prix. Et là, j'étais centrée. Être centrée, c'est ce qu'il y a de plus excitant. C'est ce qu'il y a de plus... On a envie de... C'est une preuve d'amour, en fait. Donc, on a envie de s'embrasser, on a envie de le crier au monde, on a envie de le partager. Et là, dans ce moment-là, je suis très émue quand je vous le raconte, mais dans ce moment-là, je me suis sentie extrêmement fière de moi, soulagée et fière. Et on va finir cet épisode sur un ton un peu plus léger. Et il s'agit d'une fois où je me suis coupé les cheveux pour une collaboration YouTube. Bon, dit comme ça, vous voulez dire « and so what ?» Il faut savoir que moi, j'ai une relation avec mes cheveux depuis que je suis adulte qui est de l'ordre de la dévotion. C'est un délire, quoi. J'adore mes cheveux, je les aime profondément, j'en prends énormément soin. Pour moi, ils font partie de ma personnalité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est pour ça que j'adore les avoir longs. Je les ai eu courts parfois, ceux qui me suivent depuis longtemps m'ont vu aussi avec tes cheveux plus au carré, etc. Mais je reviens toujours au long et j'aime les cheveux longs. De manière générale, j'adore ça. J'aime Pocahontas, j'aime Esmeralda, enfin voilà. Et lors d'une collaboration pour une vidéo YouTube, j'ai accepté qu'on me coupe les cheveux, pas avec des ciseaux de coiffeur et pas avec un coiffeur. C'est-à-dire, chez moi, une copine qui me coupe les cheveux. J'ai accepté de faire ça dans l'énergie un peu grisante du moment où « Ah ouais, viens, on va faire ça, ça va être trop chouette. » Mais j'étais complètement à côté de mes pompes à ce moment-là. Parce que j'étais prête à faire quelque chose qui n'est pas aligné ou qui n'est pas juste ou qui n'est pas sincère avec moi-même pour répondre à une demande client, pour répondre à un besoin que j'avais, que le client soit satisfait, que ça fasse assez de vues, qu'il puisse ensuite travailler à nouveau avec nous. Vraiment, dans ce besoin de plaire et de satisfaire, j'étais prête à renoncer à quelque chose de fondamental pour moi. Ça, mes amis, c'est être à côté de ses pompes. C'est oublier l'honneur que l'on doit se porter à soi. Et c'est pas dramatique parce que des cheveux, ça repousse. C'est rien du tout. Mais peut-être que cet exemple-là, il peut résonner chez certains et certaines d'entre vous à des proportions plus grandes. Et quand votre honneur ou ce qui est le plus essentiel pour vous est mis de côté au service de quelqu'un ou de quelque chose, c'est que déjà vous êtes plus centré, donc c'est pas normal. Et vous ne devriez pas aller dans cette direction-là. Donc c'est ça l'enseignement que j'ai tiré de cette expérience dont je me rappelle avec beaucoup de joie et de rire. Et je voulais vous le partager parce que je pense que c'est une histoire qui, par extension, peut être traduite à des niveaux supérieurs qui peuvent être importants. Là, ce n'est pas important, ce cas-là, mais parfois, ça peut l'être. Donc, quand réellement, on fait des choses qui ne respectent pas nos volontés, nos valeurs, notre pensée la plus sincère, notre essence, notre vérité, notre justesse, c'est que on a décidé que notre centre, il pouvait aller à la poubelle et que ce n'était pas important. Et donc, on a décidé qu'on n'avait pas besoin de s'honorer. Et ça, vous savez bien que ce n'est pas normal. Vous savez bien qu'on ne devrait pas. Donc, je pose ça là, de manière à ce que ça puisse peut-être germer en certains et certaines d'entre vous et vous permettre d'explorer dans ce sens-là. Donc voilà, c'était cinq actions ou cinq décisions que j'ai prises où j'étais à côté de mes pompes. Et c'est OK, il y en a une que je regrette parce qu'elle est allée trop loin. Mais les quatre autres, pues, no pasa nada. Pour de vrai, no pasa nada. C'est hyper chouette. Et même d'avoir trompé quelqu'un, ça m'a tellement appris. Je regrette parce que je sais que j'ai fait beaucoup souffrir et parce que, merde, ça a duré plusieurs mois et j'aurais voulu être honnête avec moi-même plus tôt. Mais j'avais aussi 19 ans. Donc, je pense que l'âge aussi fait que j'étais pas en mesure d'avoir les cojones nécessaires pour être sincère avec moi-même et donc avec l'autre. J'espère que cet épisode vous a fait sourire, vous a parfois ému ou vous a juste fait passer du bon temps, qui vous a servi d'une certaine manière et que vous allez pouvoir explorer ces histoires de centre et de décisions que l'on prend centrées ou pas centrées dans votre vie, dans le quotidien. Mais rappelez-vous que c'est pas grave si parfois on est à côté de nos pompes, ça nous arrivera encore souvent. Ce qui compte, c'est que on ne le voit pas comme quelque chose de dramatique et qu'on ne se flagelle pas pour ça. On a le droit, parfois, d'être à côté. No pasa nada. Je vous embrasse, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode. Sachez que sur YouTube, vous allez aussi pouvoir retrouver quelque chose très vite. Et si vous écoutez ce podcast plus tard dans l'année ou dans 10 ans, eh bien vous l'aurez vu aussi, vous pourrez le voir aussi. Je vous embrasse et à très bientôt.